Salut, moi c'est Guillaume Machet. Vous écoutez 70 minutes avec. Hello tout le monde, l'épisode que je vous promets depuis, je crois, 6 mois, quelque chose comme ça, est enfin là. On parle avec Jean-Marc Jancovici de transition énergétique, d'énergie renouvelable, de nucléaire, de politique européenne, tout ça. J'espère que ça vous plaira. Le son n'est pas d'hyper bonne qualité, j'en suis désolé. La pièce dans laquelle Jean-Marc était installé a beaucoup de réverb. J'ai mis en place tout ce que je pouvais pour minimiser les dégâts. Je pense que ça reste largement écoutable. Et enfin, l'épisode est un poil plus court que ce dont vous avez l'habitude, un peu plus d'1 heure en tout, puisque, comme vous le savez, Jean-Marc Jancovici est quelqu'un d'hyper occupé avec toutes ses différentes activités, différentes fonctions, au Conseil pour le climat, etc. Allez, c'est parti. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Jean-Marc Jancovici. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Jean-Marc, vous êtes ingénieur, expert en matière d'énergie et de climat. Vous êtes entre autres choses enseignant vacataire à l'École nationale supérieure des mines de Paris. Vous êtes conférencier, auteur de nombreux livres au sujet du réchauffement climatique et de l'énergie. Vous êtes aussi cofondateur de la boîte de consultance Carbone 4 et du think tank The Shift Project. Et enfin, surtout, vous vous déplacez exclusivement en transport public et vous mangez relativement peu de viande, principalement du poulet ou du porc. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Écoutez, on va dire que ça ira pour le moment.
Alors, on va discuter ensemble des sujets qui sont les vôtres, donc principalement les questions liées à la transition énergétique, à la décroissance, au nucléaire et ainsi de suite. Pour commencer doucement et pour toucher un sujet d'actualité récente, donc je ne l'ai pas dit, mais vous êtes français. On a eu récemment les primaires au Parti écologiste, Parti écologie des Verts en France. Est-ce que vous vous retrouvez dans le programme mené par Yannick Jadot?
Donc la réponse, c'est que je n'ai pas lu dans le détail les propositions de Yannick Jadot, donc je ne sais pas exactement ce avec quoi je serais d'accord et ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Mmh.
Mais c'est tout à votre honneur. J'avoue que je n'ai pas lu non plus le programme de Yannick Jadot, étant donné que ce n'est pas mon pays. Mais je posais la question, en fait, de manière un petit peu astucieuse, parce que je pense avoir compris que, malgré votre engagement concernant les questions climatiques, les questions liées à la question énergétique, je pense avoir compris que vous êtes relativement en décalage avec les partis verts en Europe. Est-ce que je dis une bêtise ?
Ça dépend sur quoi. D'après ce que j'ai compris, il y a deux sujets sur lesquels je peux classiquement être en décalage avec les verts. Le premier est celui de la croissance. Il y a un certain nombre de candidats verts qui sont dans une optique de ce qu'on appelle classiquement la croissance verte. C'est-à-dire qu'en gros, ils considèrent qu'on peut se retrouver dans une situation dans laquelle on a à la fois résolu nos problèmes et globalement plus de moyens économiques pour traiter tous les problèmes que nous avons en ce bas monde, les problèmes de justice sociale, les problèmes d'accès à ceci ou à cela. On va dire où la réponse est classiquement donnée sous forme économique. Et puis, il y a un deuxième sujet sur lequel je suis facilement en décalage aussi, qui est la question du nucléaire. Alors après, là, on parle des Verts français. C'est plus ou moins vrai dans les autres pays européens. Par exemple, les Verts finlandais, je ne sais pas où ils en sont sur la croissance, mais par contre, ils ont dit que le nucléaire, ça leur allait bien. En Grande-Bretagne, il n'y a pas de parti vert, parce que l'environnement, il n'y a pas de parti vert significatif, parce qu'au fond, l'environnement est déjà traité de façon relativement sérieuse par les partis de gouvernement. Il y a en particulier un consensus très fort en Grande-Bretagne sur le fait qu'il faut décarboner, et il y a également un consensus assez fort dans le pays sur le fait qu'il faut le faire de manière pragmatique, et donc que si le nucléaire tombe du bon côté de la barrière, ben, ma foi, on prend le nucléaire. C'est pas vraiment un clivage partisan qui illustre les différences d'appréciation qu'on peut avoir sur ce sujet. Ça dépend où on regarde en Europe. Si on regarde l'Allemagne, c'est évident qu'en Allemagne, les Verts sont très anti-nucléaires. J'avoue ne pas savoir où ils se tiennent sur la question de la croissance. Donc ça va dépendre de où vous regardez en Europe. Et si vous regardez au sein même des Verts français, à la primaire, ils n'étaient pas tous d'accord sur le nucléaire et ils n'étaient pas tous d'accord sur la croissance.
Oui, bah oui. D'où le besoin d'une primaire. Et donc, vous parliez du Royaume-Uni. Ils ont justement annoncé très récemment que le nucléaire serait au centre de leur projet, au cœur de leur projet en ce qui concerne donc la décarbonation de l'énergie au Royaume-Uni. Une autre question qui m'intéresse, puisque donc je fais un léger détour très temporaire par la situation politique en France, je trouve intéressant que dans votre livre, dans vos livres, puisque j'ai eu l'occasion de lire celui que vous avez publié en 2015, Dormez tranquille jusqu'en 2100, vous faites un lien très intéressant entre la montée qu'on a pu voir un peu partout en Occident des politiques d'extrême droite, que ce soit Donald Trump, la question des gilets jaunes en France, la montée du Front National et ainsi de suite. Vous faites un lien entre ces situations-là et en fait la question des limites physiques de notre planète. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, la raison pour laquelle je fais ce lien, c'est que quand vous regardez la façon dont s'organise notre monde économique, vous vous rendez compte qu'en fait, l'économie est un vaste système de transformation de ressources naturelles, c'est ça qu'on appelle la production économique. Et par ailleurs, l'économie est ainsi faite que la somme des revenus des uns, c'est la somme de la production des autres. Dit autrement, les revenus que nous pouvons distribuer, c'est en fait la production qui a été créée. Dans un monde dans lequel on a accès plus facilement à l'énergie, c'est-à-dire en fait à la capacité de mobiliser des machines pour travailler à notre service, parce qu'en fait c'est ça l'énergie, hein. Le pétrole, ça se met dans une voiture, ça se met dans un tractopelle, ça se met dans un avion, ça se met dans un bateau, ça se met dans un groupe électrogène, l'électricité, ça se met dans une presse à engoutir, ça se met dans un laminoir, ça se met dans une usine chimique, ça se met dans une machine à découvrir, j'en sais rien moi, à tréfiler du plastique, bon, bref. Donc l'énergie en fait c'est ce qui sert à faire fonctionner des machines. Et donc, dans un monde avec plus d'énergie, vous faites fonctionner plus de machines, et donc vous augmentez la production, et donc vous augmentez la distribution. Vous augmentez les revenus. Les revenus exprimés en termes matériels. C'est-à-dire, vous avez plus de mètres carrés, vous avez plus de moyens pour vous déplacer, vous avez plus à manger, vous avez plus d'objets à acheter, et vous avez plus de smartphones à regarder. À partir du moment où vous avez une contraction énergétique, c'est-à-dire un approvisionnement énergétique qui se met à baisser, à ce moment, vous avez la production qui se met à en souffrir. Et si cette contraction de la production absolue ou relative, c'est-à-dire simplement elle augmente moins vite que la population, par exemple, a lieu, à ce moment, vous avez une fraction de la population qui doit se mettre à se passer de quelque chose. À ce moment, vous avez deux options. Ou bien tout le monde se passe d'un petit quelque chose, ou bien ceux qui sont les mieux placés dans la société s'accrochent mieux que les autres à ce qu'ils ont, parce qu'ils ont plus de moyens, parce qu'ils ont des meilleurs syndicats, parce qu'ils sont riches et qu'ils ont le pouvoir, parce que, enfin, peu importe, ils s'accrochent plus à ce qu'ils... Et à ce moment, ceux qui ne s'accrochent pas bien perdent proportionnellement beaucoup plus que leur part, puisque les autres n'ont rien perdu. Donc, dans une contraction énergétique subie, vous avez un risque qu'une partie de la population se retrouve soudain privée de beaucoup, souffrent beaucoup plus proportionnellement que les autres et qui sont en pratique ceux qui ont le moins les moyens de s'accrocher, de se battre pour conserver une fraction de ce qu'ils ont. Alors, il se trouve que si la décrue énergétique est due au pétrole, c'est-à-dire qu'on est en manque de pétrole, à ce moment, il se passe deux choses. D'une part, ce que je viens d'expliquer sur l'énergie s'applique, c'est-à-dire que vous avez un ralentissement, voire une décrue du système productif. En Europe, d'une manière générale, on a eu une stagnation. En Espagne, en Italie, on a eu carrément une décrue. Dans le monde, globalement, on a eu un ralentissement, tout ça depuis 2006. Et les gens qui dépendent par ailleurs très fortement du pétrole pour se déplacer, c'est-à-dire les gens qui habitent dans la diagonale du vide ou dans les grandes banlieues loin de tout, à ce moment, ils sont soumis à la double peine. D'une part, ils subissent une économie qui ralentit et donc ils ont plus de difficultés qu'avant à conserver un travail ou à en trouver un. Et d'autre part, ils ont des coûts de transport ou un transport qui devient moins facilement accessible, parce que le pétrole se raréfiant, ben ça veut dire moins de moyens de transport globalement. Et ce sont les gens qui sont dans ces endroits-là qui ont proportionnellement à leurs revenus les dépenses de transport les plus élevées. Et c'est effectivement ce qu'on a vu avec le phénomène gilet jaune. Et c'est dans ces zones-là aussi que vous voyez globalement monter la déshérence et l'appétence pour les votes un peu musclés, en fait. pour les partis un peu musclés. Donc donc il y a un lien direct pour moi dans ma vision du monde entre la contraction énergétique subie quand elle vient du pétrole, ce qui nous arrive encore une fois en Europe depuis 2008, on en parlera peut-être, l'émergence d'une fraction croissante dans la population de gens qui ne savent plus trop ce qui leur arrive et qui ont envie de se jeter dans les bras de gens qui leur promettent monts et merveilles sans en avoir, soit dit en passant, la moindre capacité.
C'est pas tout. Oui. Donc on partait collectivement du principe que la croissance serait éternelle, elle ne l'est pas, et donc il y a tout ce segment de la population qui est particulièrement fragilisé, donc vous parliez de personnes dans les banlieues, cet électorat-là est fragilisé et est susceptible de faire ce que vous appeliez un vote plus musclé. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de la décroissance. Juste avant ça, puisqu'on parlait de système économique, il y a relativement souvent dans la bouche, et on sait évidemment que les activistes écologistes sont très fragmentés, très divisés dans leur vision du monde, mais il y a, je trouve, relativement souvent dans la bouche des militants écologistes, l'idée que le capitalisme n'est pas le système qui nous permettra de sortir de la boucle infernale du réchauffement climatique. Est-ce que vous partagez cette vision ? Est-ce que vous êtes vous-même un anticapitaliste ou est-ce que vous restez fidèle à un idéal libéral traditionnel ?
Alors, je ne suis ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que je ne pense pas, malheureusement, qu'il y ait un lien univoque entre le capitalisme et la prédation de l'environnement, puisque quand vous regardez le régime non capitaliste qui a eu lieu chez les soviétiques, il a été tout à fait prédateur de l'environnement. Et lorsque la Chine a entamé son redémarrage industriel il y a 20 ans, elle était d'un capitalisme quand même assez limité. Donc l'idée que le capitalisme est consubstantiel à la prédation de l'environnement et que sans capitalisme, on arrête de saloper l'environnement est une idée qui me paraît malheureusement ne pas correspondre à ce qui peut s'observer dans le monde. Si on en revient à des ouvrages qui sont des ouvrages qui portent plus sur la nature humaine, indépendamment du système politique dans lequel cette nature s'exprime, on a malheureusement affaire à des traits comportementaux de notre espèce qui sont plus profonds et plus primitifs que le système politique dans lequel nous vivons, ce qui est une très mauvaise nouvelle, parce que je préférerais de très loin que le problème soit exclusivement associé à un système politique dont il suffirait de se débarrasser. Je pense malheureusement que le problème, il est plus profond, il est plus ancestral. Du reste, on a bien vu dans la Russie dite communiste qu'en fait, la notion de propriété n'avait pas complètement disparu. Par exemple, votre conjoint, il n'était pas en libre accès pour tout le monde. Donc, il y a un certain nombre... Oui, donc,
j'ai bien compris.
L'accès restreint restait une réalité. Donc, il y a des domaines dans lesquels on l'a limité, mais ça restait quand même une réalité. Et puis, une partie des dirigeants soviétiques étaient vraiment dans le « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Mm-hmm. Donc, en fait, l'idée qu'on va accumuler, c'est quelque chose qui est presque génétique chez nous, malheureusement. Il y a un homme qui a publié deux bouquins assez intéressants qui s'appelle Sébastien Boller il y a quelques mois. Le premier bouquin s'appelle Où est le bug humain, pardon, et le deuxième bouquin s'appelle Où est le sens. Et en fait, il explique qu'on a un certain nombre de comportements primitifs, alors que lui attribue à une structure cérébrale, mais à la limite, ça, pour moi, c'est secondaire dans le propos. Un certain nombre de traits de comportement primitifs qui sont manger, se reproduire, accumuler de l'information, accumuler du pouvoir, etc. Et en fait, il explique également qu'on a besoin d'autres sentiments ou d'autres choses, notamment se rassurer. Et le patrimoine est quelque chose qui rassure. Et donc, c'est lié... Alors, si on n'a pas de patrimoine, on peut se rassurer avec une position dans la société qui fait qu'on a extrêmement confiance. Et du reste, on le voit bien. Il y a un certain nombre de gens en France qui choisissent la fonction publique, donc ils ont moins de patrimoine que les autres, parce que c'est compliqué de s'enrichir en étant employé des postes. Mais ils ont en échange de ça une sécurité qui leur provient de leur statut. Et on voit bien du reste qu'ils y sont très attachés. Donc, c'est des pulsions qui sont assez primitives, ces affaires-là. Et il n'y a pas de raison qu'elles disparaissent simplement parce que le système politique change. Alors, est-ce qu'il faut se débarrasser du capitalisme pour régler les problèmes d'environnement ? J'ai envie de dire, il vaudrait mieux pas, parce que le capitalisme correspond par ailleurs à une forme d'expression de traits de comportement qui sont profondément ancrés en nous. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le capitalisme tel que nous l'avons actuellement est satisfaisant ? Sûrement pas. Dans les choses, moi, qui me semblent à modifier dans le système tel que nous l'avons aujourd'hui, Alors, il y a un premier trait qui, moi, me tarabuste un peu, qui est la financiarisation de l'économie. Parce que la financiarisation crée des couches supplémentaires entre le détenteur du capital, qui est in fine un épargnant planqué quelque part au milieu du Midwest ou du Devon, qui construit sa retraite par capitalisation. Vous savez, les fonds de pension, c'est exactement ça, hein, c'est ce qui permet aux gens d'avoir une retraite. Donc, entre cet épargnant qui est planqué quelque part et l'entreprise dans laquelle il y a un manager, vous avez mis tellement d'intermédiaires que vous avez supprimé toute empathie possible entre l'actionnaire et le salarié. En fait, le seul interlocuteur du salarié est devenu un représentant des actionnaires et pas l'actionnaire en direct. Ce représentant des actionnaires, par ailleurs, il a souvent des mécanismes pervers d'incitation. Typiquement, les stock options, pour moi, c'est un mécanisme pervers, c'est-à-dire un mécanisme par lequel vous pouvez acquérir une partie du capital d'une entreprise en fonction de sa performance boursière et non pas en fonction d'autres indicateurs de succès de l'entreprise. Ça me paraît ne pas être une bonne manière d'inciter les managers à se préoccuper du sort des gens qui travaillent avec eux. Ça ne me paraît pas non plus être une bonne manière d'inciter le manager à se préoccuper des externalités environnementales, parce qu'en première approximation, dès que vous commencez à tenir compte d'une externalité environnementale, vous avez une charge supplémentaire dans votre compte de résultat et vous dégradez le résultat. Alors je dis bien, c'est en première approximation, ce n'est pas exactement aussi simple que ça, il y a des domaines dans lesquels il y a des opportunités, mais quand même, pour faire les choses dans les bons ordres de grandeur, souvent vous allez devoir vous rajouter des charges. Donc il y a une réforme à faire, à mon avis, dans le capitalisme, une réforme assez profonde, dans laquelle il faut définanciariser une partie de l'économie. On confond souvent en fait le capitalisme avec les multinationales. Mais mon maraîcher, au marché, c'est un capitaliste. Mon plombier, c'est un capitaliste. Et du reste, moi, je suis un capitaliste. Carbon 4 est une entreprise capitaliste.
C'est intéressant parce que j'ai posé la question, donc en voulant tendre petit à petit vers la question de... Voilà, notre système économique est quand même largement basé sur l'idée, voilà, on en revient à cette question d'un idéal de croissance éternelle. Et donc, je voulais tendre à ça, mais c'est intéressant que vous répondiez en disant finalement, en centrant votre réponse sur la question de la propriété privée et en expliquant que voilà, le capitalisme en lui-même n'est pas forcément corrompu, mais il est à réformer.
Bah, la corruption existe toujours. Le régime soviétique était profondément corrompu aussi. Donc, le régime Khmer a été profondément corrompu. Donc la corruption, malheureusement, c'est un travers de la nature humaine qui peut s'exprimer dans plein de contextes différents. Si c'était simplement lié au capitalisme, ça serait beau. Encore une fois, ça me plairait, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Malheureusement, je pense que c'est plus compliqué que ça.
Mais alors donc, touchons alors enfin au sujet auquel je voulais arriver. La décroissance, un nom qu'on entend beaucoup et qui fait peur à certains. On a notamment, entre la publication de votre livre, donc « Dormez tranquille jusqu'en 2100 » paru en 2015, et aujourd'hui, il s'est passé un petit détail dans l'histoire, une petite pandémie, que beaucoup ont choisi de pointer du doigt comme étant un exemple de la décroissance, et en expliquant que c'est le chaos social, que c'est intenable, que c'est absolument insupportable, 350 millions de chômeurs en plus, etc., etc., des entreprises qui ont fait faillite, beaucoup de souffrances sociales, et vous restez, malgré ça, un partisan de la décroissance. Alors expliquez-nous, est-ce que ces analystes ont tort ?
Ils ont tort de quoi ?
Tort de dire que c'est une souffrance sociale et que c'est insupportable.
Ils ont raison de dire que ça sera une difficulté.
Oui.
Ils ont tort de penser qu'on va pouvoir l'éviter. Donc à partir du moment où on ne peut pas l'éviter, mais que c'est une difficulté, on a intérêt à anticiper. Parce que en fait, beaucoup de gens qui débattent de ce sujet, ils concluent la discussion de la manière... Pardon, beaucoup de gens qui disent la décroissance est une souffrance... concluent de la façon suivante, ils disent « puisque c'est une souffrance, on va l'éviter ».
C'est ça.
Et moi je dis « non, malheureusement, on ne va pas pouvoir l'éviter ». Vous savez, en ce qui concerne votre taille, elle est croissante des 0 à 20 ans. Ensuite, pendant quelques dizaines d'années, elle est stable, puis à un moment, elle diminue. Bon. Et penser que vous allez pouvoir éviter ça, c'est vous leurrer. Vous pouvez bien le vivre, vous pouvez faire ce qu'il faut pour que ça diminue le moins vite possible, etc. Mais vous ne pouvez juste pas l'éviter. Ben là, c'est exactement pareil en ce qui concerne la décroissance à venir du système physique dans lequel nous sommes, qui s'appelle l'économie productive. Malheureusement, on ne pourra pas l'éviter. Donc la question, c'est, à partir du moment où on le sait, comment est-ce qu'on fait pour gérer du mieux possible quelque chose qui va nous tomber dessus de toute façon et qui, en Europe, est déjà là pour partie. C'est-à-dire que, pour renvoyer à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur là où s'exprime le vote protestataire, c'est-à-dire là où il y a eu les gilets jaunes, etc., en fait, c'est déjà un effet de la décrue énergétique. Alors, moi, je l'appelle décrue énergétique, mais d'autres pourraient l'appeler décroissance. Depuis 2007, l'Europe n'a pas retrouvé la vraie croissance. Elle a trouvé une croissance qui est faite de bouts de ficelle et d'artefacts comptables, mais en fait, la vraie croissance, celle des mètres carrés qu'on construit, celle des tonnes qu'on charge dans les camions, celle de la quantité d'objets que peut se payer une personne ordinaire, j'ai envie de dire, eh bien, tout ça n'a pas augmenté, voire a baissé. Donc, l'idée qu'on a encore de la croissance, en fait, c'est une idée largement artificielle, parce que sinon, on n'aurait pas tous ces gens qui seraient en train de se précipiter dans les bras d'un certain nombre de candidats plus ou moins bien inspirés. Donc, on a une croissance qui est largement artificielle et qui est faite d'artefacts comptables, pour une bonne partie, et nourrie à la dette. Mm-hmm. Mais la vraie croissance, celle qu'on avait avant les chocs pétroliers, celle qu'on avait encore à petite vitesse après, il n'y en a plus.
Oui.
Donc le problème est déjà là, et aujourd'hui dire « mais on ne peut pas accepter la décroissance parce que ça va créer des difficultés sociales », oui, ça va créer des difficultés sociales, c'est absolument évident. En tout cas, les plus grandes difficultés seront créées si on se voile la face, et si on tape des pieds par terre en disant « je ne veux pas », alors que de toute façon, le problème, on va devoir le gérer.
Vous parliez il y a un instant donc du fait que nous sommes dans une économie productiviste. Certains, et je ne sais pas ce qu'ils font en penser, mais je pense par exemple à Bertrand Piccard, qui est conseiller spécial de la Commission européenne et attaché au commissaire chargé du futur de l'Europe, explique qu'il faut passer de cette économie productiviste à une économie où on vend de l'efficace, donc une croissance où on crée des emplois et on fait du profit en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Est-ce que ça vous semble crédible comme ce pitch? Bah,
c'est la notion de croissance verte, ou j'ai mal compris?
Je pense que c'est exactement ça, oui.
Alors, l'idée de la croissance verte, c'est qu'on va pouvoir remplacer la croissance qui engendre des ennuis par une croissance qui n'engendre pas d'ennuis. Malheureusement, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop parce que quand vous regardez depuis un siècle et demi, on n'a pas arrêté d'avoir de la croissance, on n'a pas arrêté d'avoir de l'innovation technique, et on n'a pas arrêté d'avoir des problèmes environnementaux qui, globalement, ont cru. Il y a quelques petits problèmes environnementaux qu'on a réussi à résoudre. Par exemple, le soufre dans les carburants. Donc maintenant, on désulfure les carburants. Par exemple, j'en sais rien, moi, le bruit à certains endroits, on met des murs anti-bruit. Mais ça se fait toujours au détriment d'une autre nuisance qu'on a augmentée. La désulfuration des carburants, ça augmente les émissions de CO2 des raffineries. Les murs anti-bruit, ça augmente les émissions de CO2 des cimenteries et des aciéries. Éventuellement, ça augmente le trafic, parce qu'une fois qu'on a décidé que les voitures pouvaient passer en grande quantité parce que ça gênait plus les riverains, du coup, il y a encore plus de voitures qui passent. Donc, l'idée qu'on peut régler tous les problèmes d'un coup dans un monde dans lequel l'activité physique augmente est malheureusement un leurre. En gros, ce qu'on appelle la pollution et ce qu'on appelle les inconvénients environnementaux, c'est les sous-produits indésirables de notre activité qui s'expriment en termes de flux physiques. La croissance, c'est l'augmentation de ces flux physiques. Et augmenter la production, en fait, c'est augmenter les flux physiques. Et la pollution, au premier ordre, c'est les sous-produits indésirables des flux physiques que nous créons. Donc, il y a certaines pollutions qu'on arrive à régler, mais au détriment, encore une fois, d'autres pollutions qui augmentent. Mmh. L'idée qu'on pourrait augmenter les flux physiques et baisser d'un seul coup la totalité des nuisances associées à ces flux physiques est malheureusement un leurre. La seule manière de baisser simultanément la totalité des nuisances venant des flux physiques, c'est de baisser les flux physiques.
Et que pensez-vous de l'idée de miser alors sur des flux physiques, mais qui ne seraient pas des émissions de CO2? Moi, je pense par exemple aux énergies renouvelables.
Ben, les énergies renouvelables, quand vous recourez aux nouvelles énergies renouvelables, par exemple l'éolien et le solaire, vous augmentez significativement certaines nuisances par rapport aux énergies préexistantes, notamment l'emprise au sol, notamment la quantité de métal dont vous avez besoin pour faire un kilowattheure. Mmh. Donc, il faut à peu près 1000 fois plus de surface pour faire des kilowattheures solaires que pour faire des kilowattheures avec une source électrique concentrée, que ce soit du nucléaire, du charbon, du gaz. Il faut 10 à 100 fois plus de métal par kilowattheure quand vous faites du solaire ou de l'éolien que quand vous faites une source, quand vous prenez une source concentrée. Donc, l'inconvénient sur le CO2, on l'a reporté sur d'autres inconvénients qu'on peut considérer comme étant plus graves ou moins graves. Ça dépend des... C'est une affaire d'appréciation, cette affaire-là. Hein. Ce n'est pas une vérité scientifique. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire c'est moins grave. Il y a des gens qui vont vous dire c'est plus grave. Et puis, il y a des gens qui vont vous dire ça dépend. Et puis, il y a des gens qui vont vous dire on a encore une autre alternative qui est de mettre moins d'éoliennes et de faire beaucoup plus d'économies d'électricité. Et puis, il y a des gens qui vont vous dire on peut mettre moins d'éoliennes et plus de nucléaire et des économies d'électricité. Enfin, voilà. Vous voyez, donc, en fait, à un moment, on n'a pas une seule solution à notre disposition. Par contre, quand vous regardez les limites physiques qui sont liées au fait de faire autrement, vous n'avez jamais de situation dans laquelle il n'y en a pas. Simplement, vous les avez déplacées, elles portent sur autre chose, avec des limites et des inconvénients qui s'expriment de façon différente. Ça ne veut pas dire qu'ils sont impossibles de choisir, mais ça veut dire que vous choisissez la nature de vos inconvénients.
Mmh. Et donc, les inconvénients des énergies renouvelables, ce serait, entre autres choses, la non-permanence de la productivité.
Ça dépend des énergies renouvelables. Si vous avez de l'hydroélectricité, vous avez tout à fait une permanence de la production. Enfin, sauf s'il met à faire vraiment trop sec. Donc, vous avez un aléa à ce niveau-là. Si vous utilisez la biomasse pour faire de la chaleur, vous n'avez pas de problème de pilotage. Par contre, vous avez un problème de surface nécessaire pour faire pousser la biomasse qui va vous servir. Si vous utilisez la pompe à chaleur, c'est-à-dire la géothermie basse température, là, vous avez un sujet qui est la disponibilité de l'électricité pour faire fonctionner le dispositif. Enfin, voilà, vous avez, donc, il y a des choses qui sont mieux que d'autres de mon point de vue. Mm-hmm. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire d'arbitrage. Par contre, l'idée est qu'on peut faire des arbitrages qui font gagner, qui ne font perdre sur aucun tableau, malheureusement, c'est rare.
Et donc, entre autres choses, le coût de production, par exemple, en ce qui concerne donc, le solaire et l'éolien, il faut non seulement produire cette électricité, donc vous avez évoqué la question des métaux nécessaires, mais également la stocker dans les batteries, également la distribuer, ce qui présente des limites en elles-mêmes.
Aujourd'hui, quand vous regardez, alors un ordre de grandeur, quand vous regardez l'ensemble de la puissance de production dans le monde, donc la totalité des dispositifs qui produisent de l'électricité, la puissance installée, donc là-dedans vous avez charbon, gaz, un peu de pétrole, nucléaire, hydroélectricité, éolien, solaire, géothermie, enfin tout. Vous avez un peu plus de 7000 milliards de watts, 7000 gigawatts installés. Là-dedans, en face de ça, vous avez une puissance de stockage, donc des appareils qui sont susceptibles d'absorber de l'électricité quand il y en a disponible pour la restituer plus tard, qui est de l'ordre de 150 gigawatts. Donc vous avez 7000 de production, 150 de stockage. Dans ce stockage, vous avez moins de 1% qui est des batteries. 99%, c'est ce qu'on appelle des barrages réversibles, des stations de pompage, ou STEP. Alors, dans le plat pays qui est le vôtre, il n'y en a pas beaucoup.
Effectivement.
Pour ça, il faut avoir des montagnes.
Mais c'est ça.
Par contre, dans le pays un peu moins plat qui est le mien, vous en avez dans les Alpes, vous en avez dans le Massif central, vous en avez également en Suisse. Et donc, c'est des barrages dans lesquels on pompe l'eau dans le réservoir d'altitude quand il y a de l'électricité en excès sur le réseau, typiquement la nuit, et on turbine l'eau vers un réservoir en aval, mais où on laisse l'eau pour la repomper la nuit, quand vous avez besoin de produire de l'électricité. Voilà, ça s'appelle des stations de pompage. Et bien, ces stations de pompage font 99% de la puissance de stockage dans le monde aujourd'hui, par rapport à la puissance de production. Et cette puissance de stockage, c'est 2% de la puissance de production. Donc aujourd'hui, les batteries, c'est moins de 1%, de 2% de la puissance de production. Donc, il va se passer un temps avant qu'on ait suffisamment de batteries. En fait, on n'en aura jamais. Personne de sérieux n'envisage qu'on stocke sur batterie. On compense avec des batteries l'intermittence liée à beaucoup d'éolien et beaucoup de solaire. Ce qui veut dire qu'en pratique, il se passerait ce que votre plat pays a décidé de faire, c'est-à-dire des centrales à gaz. Et c'est quand même un comble, pardonnez-moi de le dire, et je considère que si la Commission n'était pas allemande donc anti-nucléaire, en voyant ce genre de truc, elle devrait vous coller une énorme prune. Sérieux, on ne l'est pas. Si on dit qu'on baisse les émissions de CO2, c'est juste inconcevable de les réaugmenter.
On en reparlera, j'ai presque envie de réagir maintenant. Je pense que l'idée derrière ces constructions de ces centrales à gaz, c'est, je pense, le fait que donc on va couper normalement d'ici 4 ans les 4 centrales nucléaires qui sont installées. et que donc, plutôt que de se baser sur le réseau électrique européen et d'importer de l'électricité à l'étranger, qui serait alors principalement produite sur base de charbon, l'idée c'est de dire, mais on va faire le moindre mal et on va se baser sur le gaz.
Oui, oui, l'idée c'est plutôt que de te couper deux jambes, je t'en coupe qu'une, comme ça c'est quand même vachement mieux.
Voilà, voilà, ça reste problématique, mais on est bien d'accord.
Pardonnez-moi, mais ça reste, je dis suffisamment de mal de mon propre gouvernement pour être capable de temps en temps de dire du mal de celui des autres, ça reste un problème de Shadow, ce truc.
Voilà, mais je ne dirais pas le contraire, après c'est un débat qui fait rage et qui dépasse largement mon domaine d'expertise, mais j'ai tendance à vous donner raison. Pour revenir sur, donc vous parliez il y a un instant des structures de pompage dans vos montagnes. Pour revenir sur les nouvelles technologies qu'on a vu apparaître ces dernières années, j'ai notamment pu entendre parler de ces technologies qui pompaient du CO2 dans l'atmosphère et qui les stockaient. Donc l'idée de dire, mais on va finalement inverser la donne. On va non seulement baisser nos émissions, mais on va aller chercher le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère et on va le stocker sur Terre. Est-ce que c'est un projet d'avenir ? Est-ce que certains y croient fermement ?
J'ai fait un petit calcul. Il y a un projet de cette nature qui a été mis en œuvre en Islande. Alors, ça se présente sous forme d'une espèce de gros tuyau d'aspiration. Là, on aspire l'air et puis l'air passe sur un produit spécial qui, entre guillemets, capture le CO2. Et puis derrière, ce produit spécial, on lui fait recracher le CO2 quand il est dans une enceinte confinée où il recrache uniquement du CO2, puisque le reste, il l'a laissé passer. On peut à ce moment enfouir sous terre. Alors, le rendement de cette affaire est très mauvais. En Islande, où l'électricité est quasiment totalement décarbonée, il faut vous réussissez à capturer plus de CO2 dans l'air que vous n'en émettez à travers la production électrique islandaise. Et en fait, c'est parce que l'électricité est quasiment totalement décarbonée. Si on utilisait le même procédé dans le monde, en moyenne mondiale avec les réseaux électriques existants, ça cracherait plus de CO2 dans l'air pour faire l'électricité permettant au dispositif d'opérer que de CO2 capturé par le dispositif. Donc, c'est fondamentalement une mauvaise idée. Et si on voulait reprendre chaque année la totalité des émissions humaines de CO2 dans l'air avec ce genre de procédé, il faudrait que ce genre de procédé utilise 6 fois l'électricité mondiale.
Je pense qu'il ne s'agit pas tellement de compenser les émissions qui ont lieu, mais surtout celles qui ont déjà eu lieu, celles du passé.
Si on doit, dans le futur, avoir énormément d'électricité décarbonée pour, petit a, remplacer les combustibles fossiles et, petit b, en plus, pomper le CO2 qui se trouve dans l'air, en fait, si vous faites les ordres de grandeur sur la production électrique, vous n'y êtes absolument pas. Sans compter qu'un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure sur les dispositifs de production d'électricité renouvelable, c'est qu'aujourd'hui, c'est compétitif, parce que ça dépend d'un monde qui est dopé aux combustibles fossiles. Ce monde dopé aux combustibles fossiles vous permet d'extraire des métaux dans toutes les mines du monde avec des énormes tractopelles, vous permet d'assurer la métallurgie de base, vous permet de transporter depuis la Chine où sont faits tous les panneaux solaires par gros porte-conteneurs les cellules photovoltaïques en question, vous permet d'extraire au fin fond du Chili le cuivre qui va servir dans les câblages électriques, vous permet, grâce au gaz, de faire le ciment qui va vous permettre de faire les gros plots, etc., etc. Donc, aujourd'hui, la fabrication de ces dispositifs bénéficie de la formidable productivité que les combustibles fossiles ont apporté à l'économie en général. Le jour où vous devez extraire du cuivre des mines chiliennes avec juste des éoliennes et des panneaux solaires et faire les transports internationaux avec juste des éoliennes et des panneaux solaires, on reparlera de la compétitivité des énergies renouvelables. C'est absolument évident que le prix d'aujourd'hui n'est en rien prédictif de la facilité à les déployer dans le monde de demain où il n'y aurait plus de combustibles fossiles.
Donc du coup, tout dépend finalement de sources d'énergie qui seraient complètement émancipées des combustibles fossiles.
Sans combustibles fossiles, il va falloir continuer à pouvoir faire de la métallurgie, de la chimie, etc. pour fabriquer des éoliennes et des panneaux solaires. Donc, ce qui veut dire que dans un monde qui sera pauvre en énergie, la quantité de métal dont on aura besoin pour produire un kilowattheure deviendra un facteur très très fortement discriminant. Et à ce jeu-là, le nucléaire et dans une moindre mesure les barrages sont considérablement plus intéressants que les éoliennes et les panneaux solaires.
Est-ce que vous voyez d'autres développements technologiques, d'autres révolutions qui sont sur le point de venir ou qui sont apparues récemment?
Les échelles de temps sont trop courtes maintenant pour qu'on fasse avec les développements technologiques de demain. Il faut faire avec les développements technologiques d'hier. Quand vous êtes dans un bateau qui voit venir la tempête, vous ne commencez pas à vous poser la question de savoir ce que vous pourriez faire la prochaine fois que vous allez passer chez le voilier. Vous vous posez la question de ce que vous pouvez faire avec les voiles que vous avez déjà en soute et le gouvernail que vous avez déjà sur le bateau et le jeu de cartes que vous avez déjà sur le bateau. Voilà, c'est avec ça que vous vous posez la question de savoir ce que vous allez faire. Là, c'est exactement pareil. La baisse des émissions, on va devoir la gérer avec les moyens du bord. Et les moyens du bord n'incluent pas des avancées techniques qui arriveront dans 20 ans. Ça inclut de prolonger éventuellement des efforts qu'on démarre aujourd'hui avec des moyens qui arriveront dans 20 ans, ça oui. Par contre, ça, il ne faut absolument pas qu'on attende ce qui va arriver dans 20 ans pour démarrer, sinon on est mort.
On aura l'occasion de parler de fusion nucléaire un peu plus tard dans l'émission, et de ITER en France notamment. Mais pour revenir donc, parce qu'on n'a pas clôturé cette question-là, la question de la décroissance, vous parliez de se préparer à une décroissance qui est inévitable, alors je vous pose la question, qu'est-ce que ça signifie se préparer à la décroissance?
Ça veut dire par exemple que il faut qu'on reconfigure notre système de transport pour dépendre moins de moyens individuels qui pèsent une tonne ou une tonne et demie par personne transportée, et plus soit de moyens individuels légers, vélo à assistance électrique, scooter, soit de modes qui pèsent effectivement un peu lourd, mais à ce moment qu'on partage mieux. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir une voiture par ménage, ben vous avez une voiture pour 3 ménages, ou une voiture pour 4 ménages, ça veut dire qu'on prend plus souvent les transports en commun, ça veut dire qu'on raccourcit la portée des déplacements. Voilà ce que c'est de gérer en pratique la sobriété ou ce que d'aucuns appellent la décroissance. Ça veut dire que sur le plan agricole, vous produisez moins, mais par contre avec un cahier des charges environnementales qui est plus exigeant. Ça veut dire que vous aurez moins d'objets de toute nature à disposition. Donc, par exemple, la variété de la quantité de stylos que j'ai actuellement dans le pot à stylos qui est juste devant moi sur le bureau, eh bien, au lieu d'en avoir 25 espèces différentes, on se contentera de 15 ou de 10.
Moins de compétition sur tous les marchés, moins de différentes sortes de smartphones, etc.
La compétition, elle aboutit à la multiplication des flux de prélèvement et de transformation. Bon, alors peut-être qu'on n'a pas tous envie de vivre dans un monde dans lequel il n'y a qu'une seule espèce de stylo. Encore que moi, j'ai grandi dans ce monde-là. Et j'ai pas, enfin, je veux dire, à l'époque, on avait des stylos bic. Il y avait stylos bic bleu, stylos bic noir.
Vous avez survécu.
Et oui, c'est ça, et j'ai survécu, et j'ai pas l'impression que j'ai été très malheureux à cause de ça.
Bon, c'est un exemple un brin simpliste, mais on comprend l'idée.
Donc, on va avoir. Alors, c'est exactement pareil dans le logement. Le logement, on va avoir besoin de mieux mutualiser, éventuellement d'accepter des surfaces un peu plus petites par personne, etc. Ça va être le cas dans l'industrie, j'en ai parlé. Et les transports, j'en ai parlé. Voilà. Et en gros, c'est ça que ça veut dire, la sobriété. Ça veut dire qu'on va devoir être heureux avec quand même un peu moins de trucs.
Ouais, vous avez cité effectivement les axes principaux. En ce qui concerne donc la façon dont c'est reçu par la population, si on prend simplement l'exemple des transports, donc l'idée de se déplacer principalement en transport en commun plutôt que d'acheter chacun sa petite voiture personnelle. Pour info, par exemple, en Belgique, on est de manière générale très client, et je ne m'inclus pas là-dedans, mais des voitures de société. Donc c'est extrêmement courant en Belgique d'avoir sa petite voiture de société perso. Il y a une forme de standing social qui est associée à ça, par exemple. Ou alors, si je prends l'exemple des stylos, le fait d'avoir un beau stylo qui se démarque des autres ou un beau téléphone qui se démarque des autres, il y a une forme de standing social. Les plus privilégiés, ils sont très attachés. Est-ce que ça ne représente pas un challenge significatif que d'expliquer à ces populations très attachées à leur standing social que mais il va falloir un peu laisser tomber tout ça?
Si, bien sûr. Et du reste, là encore, dans le livre dont je parlais tout à l'heure, là où est le sens de Sébastien Boller, ce dernier explique que de grimper dans la hiérarchie est une pulsion fondamentale de notre espèce. Donc ça veut dire que l'idée qu'on devrait supprimer les envies d'acquérir de statut, ça c'est une chimère, c'est même pas la peine d'essayer. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de déplacer cette envie d'acquérir du statut sur des choses qui sont moins prédatrices pour l'environnement. Par exemple, le savoir, Par exemple, l'expérience, par exemple, j'en sais rien, moi, la capacité à bien s'occuper des autres, enfin, j'en sais rien, il faut qu'on trouve, après tout, l'abbé Pierre, il a acquis son statut sur le fait qu'il s'occupait des pauvres. Donc peut-être qu'il faut arriver, par exemple, le fait de trouver quelque chose qui est utile à la collectivité. Vous avez des chercheurs qui acquièrent leur statut de par le fait qu'ils ont fait des découvertes pour lesquelles on leur est reconnaissant. Donc il va falloir qu'on accepte de déplacer la quête du statut sur des choses qui sont moins matérielles, sachant bien évidemment que cette quête du statut, on ne la supprimera pas parce que ça fait partie de nos pulsions fondamentales.
L'analyse de certains, la prédiction de certains, c'est que on arrive ici aux limites de la démocratie et que à un moment donné, pour imposer ces changements-là, il va falloir, il sera peut-être, sans doute nécessaire, de passer à des régimes moins permissifs. Est-ce que vous suivez ce raisonnement-là ?
Alors oui, je le suis tout à fait. Malheureusement, c'est pour partie fondé. Alors je vais essayer, avant de ne pas être perçu, avant d'être perçu comme le suppôt de la dictature, de préciser un peu ce que j'évoque.
Vous n'êtes pas tombé dans mon piège.
Quel que soit le régime, on a toujours considéré qu'il était légitime de se fixer des limites à la liberté individuelle. Par exemple, si vous m'énervez beaucoup avec les questions que vous me posez, je n'ai pas le droit, c'est une limite à ma liberté individuelle, de venir en Belgique et de vous taper dessus ou de vous planter un tournevis dans la fesse gauche. Voilà, la loi interdit que je fasse ce genre de choses.
Ouais, on ne peut pas crier au feu dans une salle de cinéma remplie.
Voilà, par exemple. Donc il y a un certain, et pourtant on est en démocratie.
C'est ça.
Donc la question, avant même la question du régime politique, la question est celle de l'acceptation collective, qu'on se mette des contraintes qu'on n'avait pas avant et qu'on les respecte. Alors est-ce que ça veut dire nécessairement la dictature ou pas ? Mon souhait évidemment est que ça ne soit pas la dictature, que ce soit des contraintes qu'on accepte collectivement. Et que justement, ça soit des effets de normes sociales et de statut qui nous poussent à bien nous comporter. Parce que la norme sociale et le statut verront d'un très mauvais œil qu'on fasse des choses qui sont dégradantes pour la planète. Donc aujourd'hui, vous avez des chaussures trouées, on vous regarde comme si vous n'étiez pas à votre place. Peut-être que demain, si on regarde quelqu'un qui a une Rolex comme s'il n'était pas à sa place, ben finalement, on n'a pas besoin. Si la norme sociale nous conduit à dire bah, « ça, c'est pas bien », peut-être que ça suffit, quelque part, à ce que, globalement, ça oriente un certain nombre de comportements. À un moment, il faut quand même accepter la contrainte. On peut l'accepter en démocratie. Par exemple, en France, vous avez des limitations de vitesse sur les routes. Bon, vous avez quelques personnes qui ne les respectent pas, mais il est socialement accepté que ces limitations existent. Et il est socialement accepté, même si les gens qui en sont victimes ronchonnent, que ceux qui les dépassent se fassent attraper et payent. D'accord ? On ne pleure pas sur leur sort en général, c'est plutôt l'inverse. Donc là, en matière de... Alors là, vous allez me dire, c'est des exemples un peu anecdotiques au regard de la restriction plus générale de liberté que ça occasionnerait de lutter contre le changement climatique, puisque c'est justement les combustibles fossiles qui nous ont fourni l'essentiel de notre liberté. Ça nous a fourni la liberté d'acheter tout ce qui nous passe par la tête, ça nous a fourni la liberté de nous déplacer facilement. Ça nous a fourni la liberté d'habiter un logement plus grand, ça nous a fourni la liberté de manger plus de viande. Alors là-dedans, il y a des libertés qui seront faciles, probablement faciles à, entre guillemets, abandonner. Par exemple, sur la viande, le mouvement est déjà en train de s'opérer un peu dans le sens inverse. Et du reste, pas pour des raisons climatiques, à mon avis, les déterminants étaient ailleurs. En ce qui concerne les déplacements, ça va être plus compliqué parce que l'homme est un animal, donc il se déplace et on aime bien se déplacer. Donc, entraver notre liberté de mouvement est un truc qu'on n'aime pas trop. Peut-être qu'on peut y arriver quand même, je ne sais pas. En ce qui concerne le logement, là c'est clair qu'il y a peu de gens qui préfèrent habiter dans une pièce plus petite plutôt qu'une pièce plus grande. Encore que, si c'est beaucoup mieux situé, ça peut être un arbitrage que des gens acceptent. Donc, la question de savoir ce qu'on est prêt et pas prêt à accepter. Vous voyez, à une époque, il y a eu un homme qui s'appelait Orwell qui a écrit un bouquin qui s'appelait 1984. Je ne sais pas si vous l'avez lu.
Je ne l'ai pas lu, mais j'en ai certainement entendu parler.
Lui, il voyait la surveillance constante de la population, le fait qu'elle vive dans un état semi-asservi et l'apparition d'une langue qui ne voulait plus rien dire, qu'il appelait la novlangue, dans le bloc communiste. Où est-ce que c'est arrivé, cette histoire ? En Occident. Internet, c'est la soumission librement consentie. vous êtes pisté partout, vous donnez vos trucs absolument partout, vous mettez de vous-même dans des systèmes dont vous devenez totalement dépendant, les réseaux sociaux, etc. On assiste aujourd'hui à l'émergence aussi d'une espèce de novlangue dans laquelle, par exemple, les amis sur Facebook, ça veut dire quoi d'avoir 3000 amis? Personne n'a 3000 amis, ça n'existe pas. Déjà, si vous en avez 10, c'est bien. Si vous en avez 20, c'est nirvana. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas, 3000 amis. Bon. Donc, vous voyez bien, ça, c'est de la novlangue, pure et dure. Bon. Donc, vous voyez bien que ce que Orwell craignait pour... là où il voyait le mal, c'était chez les autres. En fait, le mal est arrivé spontanément. Et là où je voulais en venir, c'est qu'il est arrivé de façon totalement librement consentie. À aucun moment, il y a eu un régime dictatorial qui nous a mis un revolver sur la tempe et qui nous a dit « inscris-toi sur Facebook, fais ceci, fais cela ». Donc, à partir du moment où on est capable de faire ce genre de choses de façon totalement consentie, peut-être qu'on peut se prendre à rêver d'y arriver pour de bonnes raisons, de façon totalement consentie aussi.
Vous évoquiez il y a un instant donc l'aspect primaire, l'aspect fondamental dans nos fonctionnements humains. Voilà, c'est sa limite, le fait de vouloir accumuler, le fait d'avoir un certain court-termisme, enfin toute une série de limites dans le livre que vous citiez et que je n'ai malheureusement pas lu. Certains ont une approche beaucoup plus pessimiste de dire mais si le problème est fondamentalement, primairement humain. Est-ce qu'une solution, ce ne serait pas de s'attaquer à la question de la surpopulation et dire on est trop nombreux sur Terre et trop d'humains, le problème c'est les humains, il faudrait empêcher les gens de se reproduire. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche? Puisque dans certains graphiques, ce qu'on voit parfois, c'est si vous prenez le bus plutôt que la voiture, si vous consommez local plutôt que d'importer de la nourriture, etc., vous baissez d'autant votre production de CO2. Et puis, on voit à la toute fin, si vous n'avez pas d'enfants, et là, on voit que le graphique est significativement plus important et qu'en fait, c'est le mieux qu'on puisse faire selon ce graphique pour la planète, c'est de ne pas se reproduire. Alors finalement, est-ce qu'il faut encourager les gens à ne pas se reproduire?
Alors, ce qui est sûr, il y a deux choses qui sont sûres. La première, c'est que sur une planète qui fait désespérément 13 000 km de diamètre, plus on est nombreux, plus on doit partager avec les autres. Et à un moment, le partage devient tellement difficile que la situation devient vraiment problématique. Par exemple, plus on est nombreux, plus on doit partager avec les autres la terre cultivable. Alors, pour le moment, la terre cultivable, elle n'a pas été... Elle ne nous a pas empêché de nous nourrir, mais il faut savoir qu'on est passé de 1,6 à 0,6 hectares par personne, si ma mémoire est bonne, en l'espace de 50 ans, avec la croissance démographique. Alors aujourd'hui, ça ne pose pas de problème parce qu'on a les tracteurs et les engrais qui rendent cette surface beaucoup plus productive que celle qu'on avait avant, les tracteurs, les engrais et les phytosanitaires. Si un jour on a moins de tracteurs parce que c'est du pétrole, moins d'engrais parce que c'est du gaz et moins de phytosanitaires parce que c'est du pétrole, comment ça se passe? Je ne sais pas trop. Donc la crainte de Malthus, pour moi, le fondement théorique existe toujours. Ce n'est pas parce que pour le moment tout va bien, comme dit l'autre, qu'il n'y a pas de sujet pour plus tard. Vous savez, pour le moment tout va bien, c'est ce que peut se dire quelqu'un qui se jette du sommet d'une tour de 50 étages. Et au moment où il passe le 20e étage, il peut se dire pour le moment tout va bien. Mais il est clair que pour moi, on va probablement avoir un sujet lié à la taille de la population, parce que la quantité de choses qu'on consomme par personne, même à 8 milliards, même à supposer que ça n'augmente pas, difficilement compatible avec un certain nombre de choses que la Terre peut supporter sur le long terme. C'est-à-dire les placards ne sont pas assez remplis pour qu'on puisse continuer comme aujourd'hui, pendant encore très très longtemps, à 8 milliards, sans même parler que les Africains se mettent à vivre comme des Américains, juste avec la consommation actuelle. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On envoie des bombes atomiques partout, on fait des armes biologiques, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, se poser la question de est-ce qu'on peut faire des choses sur la politique de natalité qui ne soient pas des choses coercitives, oui, c'est une bonne question. Dans les choses qui peuvent être faites, il y a notamment... Alors, il y a deux sous-ensembles, j'ai envie de dire. Il y a les pays dits industrialisés, Et puis, il y a ceux qui ne le sont pas. Dans ceux qui ne le sont pas, souvent, il y a des démographies qui sont encore très rapidement croissantes. Dans ces pays-là, tout ce qu'on peut faire pour aider les femmes qui n'ont pas envie d'avoir des enfants à ne pas en avoir, est bon à prendre. Parce que vous avez un certain nombre de femmes qui n'ont pas envie ou qui pourraient ne pas avoir envie.
Donc, plus d'éducation, plus de droits pour les femmes, baisse dans la production, c'est bon pour le climat.
L'éducation, et enfin ce que les Anglais appellent empowerment.
Empowerment, en français, nouvelle langue.
J'aime pas du tout cette expression. moi, je préfère utiliser une périphrase. Et donc, tout ce qui est une meilleure maîtrise de leur destin par les femmes est quelque chose qui est évidemment là qui rejoint la cause climatique de façon directe. L'accès aux moyens de contraception, l'éducation. Et puis, les structures de mutualisation de l'aide. Quand vous n'avez pas de structure de mutualisation de l'aide, en gros, vous comptez sur votre propre famille pour vous aider si ça ne va pas bien. Donc, plus la famille est grande, et plus vous dites qu'il y aura bien quelqu'un qui va vous aider si jamais ça ne va pas bien. À partir du moment où vous avez une sécurité sociale, des régimes de retraite, etc., ben, ça devient moins vrai. Et à ce moment, vous pouvez vous reposer sur la collectivité, alors qu'avant, vous ne pouviez pas le faire. Donc là, il y a des sujets qui sont à creuser. Dans les pays occidentaux, c'est clair qu'on a aussi un sujet de natalité, parce que vous avez un certain nombre de pays où la démographie continue de croître. Et là, il y a un vrai, enfin, c'est des questions difficiles, parce qu'elle peut croître soit par immigration, soit par natalité endémique. Dans les deux cas de figure, c'est pas la même réflexion qu'il faut avoir. Sur l'immigration, l'idéal, c'est de faire en sorte que les gens qui émigrent n'aient pas envie de faire et qu'on arrive à stabiliser la situation du côté des pays d'émigration. Mais ça renvoie souvent à ce que j'ai dit juste avant avec une population qui croît rapidement. Et puis des différences d'accès aux services qui sont des différences importantes. Et si vraiment on a envie que la situation s'équilibre un peu mieux, bah, il faut que les pays occidentaux acceptent de donner. Donc voilà, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, alors j'ai envie de dire, le débat n'est pas au niveau auquel il devrait être pour traiter de cette question. Soit c'est fait avec des propos simplistes, soit c'est fait avec des propos qui sont émotionnellement excessifs et donc pas audibles, soit c'est fait en niant le problème. Aucune de ces attitudes ou aucune de ces manières de rentrer dans le problème ne sont bonnes, mais ça reste un débat très très difficile parce que ça touche à quelque chose qui nous touche aux tripes, hein. De se reproduire.
Du coup, je ne vais pas vous poser une question simpliste pour vous demander si nos auditeurs doivent se reproduire ou pas, parce que je sens que ça va vous énerver.
De toute façon, ça reste un choix individuel. C'est-à-dire que je ne souhaite pas voir un jour un monde dans lequel ça serait décidé de façon centralisée et planifiée.
C'est sûr. Comme la Chine.
Oui, comme en Chine, comme dans quelques romans de science-fiction bien connus. Par contre, qu'il y ait des gens qui se posent la question, je trouve ça tout à fait normal, tout à fait légitime. Et je comprends tout à fait les gens qui disent « moi, j'ai choisi de ne pas avoir d'enfant ».
On s'approche tout doucement de la fin de notre entretien. Nous n'avons toujours pas parlé des questions liées au nucléaire.
C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que j'en parle plutôt trop.
Mais pour revenir, donc, vous avez exprimé le fait que ce sera pour un futur lointain et que ce n'est pas là-dessus qu'il faut miser pour l'instant. Mais il y a, je l'évoquais tout à l'heure, un grand pari qui est fait sur la technologie de la fusion nucléaire, sur ITER en France. Le futur est assez sombre. Est-ce que ITER pourra jouer un rôle important là-dedans, dans le futur ?
Non.
Non ? Non. Pourquoi ?
Beaucoup trop loin, en temps. ITER n'est pas un prototype d'installation qui va produire de l'électricité.
D'accord, expliquez-moi.
C'est un prototype d'installation qui est simplement destiné à vérifier que l'énergie restituée par la fusion du plasma, c'est-à-dire l'état dans lequel on a mis la matière pour que la fusion puisse avoir lieu, en la chauffant à quelques millions de degrés, sera supérieure à l'énergie qu'on a utilisée pour chauffer la matière à quelques millions de degrés. Pour chauffer la matière à quelques millions de degrés, il faut quand même utiliser de l'énergie. Donc ITER a pour simple objet de valider qu'on peut cracher plus d'énergie via la fusion de la matière que l'énergie qu'on a utilisée pour chauffer le plasma. Il n'y a pas de dispositif de production électrique dans ITER. Donc il reste encore à le mettre au point, un dispositif de production électrique à partir de la chaleur dégagée par la fusion. Admettons que ITER valide le fait qu'on peut dégager plus d'énergie dans une opération de fusion qui va durer quelques minutes, hein, qui ne va pas durer des milliers d'heures. Alors, une centrale électrique industrielle, elle doit pouvoir fonctionner des milliers d'heures sans s'arrêter. Une centrale nucléaire moderne, elle fonctionne un an et demi sans s'arrêter. Donc, ce qui fait pas loin de 10 000 heures. Donc, La ITER, c'est juste quelques minutes, l'ambition. Hein. Donc, si ITER, ça marche bien, ce qu'on saura en 2040, 35-40, à ce moment, on décide de construire un truc qui éventuellement produirait de l'électricité, à supposer qu'on ait compris comment faire, qu'on commence à construire en 2045, qu'on termine de construire en 2055 ou 2060, qu'on commence à faire fonctionner en 2065, parce que le premier plasma, ça prend du temps, etc., etc. Vous êtes rendu en 2100 avant d'avoir éventuellement la possibilité de construire la tête de série de réacteurs à fusion. Or, il faut qu'on soit devenu neutre en carbone en 2050. Donc, mettons 10 milliards dans ITER si on veut, ou 30 milliards, mais ça ne change strictement rien à ce qu'il faut faire dans les 30 ou 40 ans qui viennent. Rien.
Oui. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on partira donc sur un 21e siècle centré sur la décroissance avec des limites physiques, des difficultés pour produire de l'énergie sur base des carburants fossiles, tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, et que peut-être le 22e siècle, la fusion nucléaire sera alors le problème résolu.
Oui, donc si on n'a rien contre le nucléaire, ce qui est mon cas, il y a beaucoup mieux à court terme que ITER, qui est le nucléaire de quatrième génération.
Oui, à court terme, on a bien compris que ce n'était pas envisageable.
Dans l'ordre, ce qui est le mieux, c'est le nucléaire actuel. Mm-hmm. La troisième génération étant pour moi du nucléaire actuel, c'est du nucléaire de plus, en fait, c'est à peu près pareil. La vraie rupture, c'est le nucléaire de quatrième génération, sur lequel les Russes et les Chinois sont en train d'accélérer très fort. Et du reste, ce n'est pas un hasard si les deux pays qui accélèrent le plus sont deux pays où, par ailleurs, le long terme a une signification, parce que c'est des pays dans lesquels l'État, le pouvoir, à tort ou à raison, est raisonnablement assuré de sa permanence. La quatrième génération, c'est les réacteurs surgénérateurs, donc qui utilisent la totalité de l'uranium ou qui utilisent du thorium. Ça comporte notamment les réacteurs à sel fondu, qui coche beaucoup de cases sur le papier et dont les Chinois viennent de terminer un prototype il n'y a pas longtemps. Donc en fait, si l'Europe n'était pas en train de se tirer des balles dans le pied sur le nucléaire, ce qu'elle est très exactement en train de faire, ce qu'il faudrait, c'est accélérer sur la quatrième génération. Et ça, on peut avoir des têtes de série qu'on peut déployer dans 15 ou 20 ans si on est sérieux sur la question, si on se met en économie de guerre. Ça, on peut le faire.
On va bientôt arriver à la fin de cet entretien. Si je vous demandais deux dernières questions, premièrement, les idées reçues que vous entendez beaucoup dans la population générale et que vous souhaiteriez corriger très rapidement, et la différence entre la vision que vous aviez des choses il y a 10 ans et celle que vous avez aujourd'hui.
Alors, sur la première, je pense que c'est... une croyance sur la facilité avec laquelle la technologie va nous tirer du problème dans lequel nous sommes. En ce qui concerne le climat et l'énergie, le grand n'importe quoi est en train de se déplacer progressivement de la définition du problème vers la facilité avec laquelle on va résoudre le problème. Aujourd'hui, dans les élites économiques et politiques, il y a très très peu de gens qui sont ouvertement climato-sceptiques. Par contre, vous avez énormément de gens qui sont devenus climato-fantaisistes, c'est-à-dire qu'ils exagèrent la facilité avec laquelle on va pouvoir résoudre le problème à base de patchs technologiques. Et c'est là-dedans qu'on trouve le greenwashing, la confusion des ordres de grandeur. Justement, j'ai fait un machin en Islande qui me pompe le CO2, donc ça y est, le problème est réglé. Je sais faire voler un modèle réduit à l'hydrogène, alors ça y est, l'aviation est sauvée. Je sais faire une voiture électrique, alors ça y est, la circulation routière est sauvée, etc. Donc c'est ça la difficulté dans laquelle on tombe. Aujourd'hui, c'est exagérer la facilité avec laquelle on va pouvoir résoudre le problème avec juste des patchs techniques en faisant totalement abstraction de la réorganisation profonde de la société qu'il va falloir qu'on opère aussi. Voilà. Donc, j'ai envie de dire ça, l'idée fausse la plus couramment
répandue. Très bien.
Et sur quel sujet est-ce que j'ai aujourd'hui une vision très différente de la vision que j'avais il y a 10 ans? Je pense que le sujet sur lequel j'ai la vision la plus différente, c'est l'arbitrage réglementation-fiscalité. Jusqu'à il y a 10 ans, j'étais encore largement convaincu du fait qu'une bonne manière de régler le problème du climat, c'était de monter les prix, c'est-à-dire la fameuse taxe carbone. Et j'ai changé d'avis avant les Gilets jaunes. En fait, je pense que maintenant, on a trop attendu pour que ce soit une bonne idée. Il aurait fallu commencer il y a 20 ou 30 ans, parce que la montée des prix est un système qui doit être lent pour que la population ait le temps de s'adapter. Ça ne peut pas être rapide. Or, aujourd'hui, nous avons besoin d'actions rapides. Et les actions rapides, on va les trouver beaucoup plus facilement dans la réglementation du genre « à partir de l'année prochaine, c'est interdit d'acheter une chaudière à fioul, même pour remplacer celle que vous avez, et dans 5 ans, c'est même interdit d'en détenir une ». Eh bien, si vous prenez ce genre de mesures réglementaires, vous pouvez aller beaucoup plus vite sur l'éradication du fioul dans le chauffage que si vous dites « je vous préviens, hein, je vais monter le prix du fioul avec la taxe carbone ». Ça, c'est un truc qui fait que les gens sont beaucoup plus démunis. En plus, si vous dites, si vous envoyez le signal réglementaire que vous allez éradiquer les chaudières à fioul, ça donne à l'économie une visibilité dans ce secteur sur la fabrication de pompes à chaleur. Vous savez que le marché va exister. Alors que si vous dites simplement « je vais monter le prix du fioul », vous ne savez pas à quel moment le seuil de douleur sera franchi et les gens vont changer pour autre chose. Donc, je suis maintenant devenu beaucoup plus partisan de la réglementation que de l'approche fiscale pour des raisons essentiellement pratiques.
C'est une conclusion très, très clairement exprimée. Je vous remercie pour ces presque 70 minutes passées avec moi. On rappelle donc vos 2 derniers livres publiés ces 5 dernières années, Dormez tranquille jusqu'en 2100, dont l'audiobook est sorti la semaine dernière, il me semble, et Décarbonons, 9 propositions pour que l'Europe change d'air, qui est donc publié avec le Shift Project.
Et je vais vous parler du prochain.
Dites-moi, oui.
Car le 29 octobre, en France, sort une bande dessinée co-écrite avec Christophe Blin, et qui s'appelle « Le monde sans fin », et qui, en 197 pages, excusez du peu, entend initier le lecteur ou la lectrice, et j'aimerais avoir beaucoup plus de lectrices que de lecteurs, parce que je trouve que ce milieu est beaucoup trop masculin, d'énergie, entend initier la lectrice, donc, ou accessoirement le lecteur, à la compréhension du problème énergie-climat et du défi énergie-climat. Voilà, et on a fait ça en essayant d'être drôle, un peu décalé, en se moquant beaucoup de nous-mêmes, et en essayant d'être pédagogique.
Super, mais je mettrai alors tous ces liens en description. Un autre endroit, un autre lieu où les gens peuvent vous suivre, vous lire sur les internets ou ailleurs ?
Oui, alors j'ai un site personnel, jeancovici.com, et qui reprend alors la page de Facebook qui porte mon nom mais que je ne gère pas, qui reprend le compte YouTube qui porte mon nom mais que je ne gère pas, et qui ne doit pas reprendre la page LinkedIn qui porte mon nom et que je gère. Et à laquelle qu'on peut suivre aussi.
Formidable, mais je mettrai alors les liens vers toutes ces magnifiques choses en description. Et je vous remercie encore une fois pour ces presque 70 minutes passées avec moi. Et on se dit alors à dans 2 semaines pour un prochain épisode. Au revoir.
Merci beaucoup.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore désolé pour la qualité de l'enregistrement. Si le sujet vous intéresse, sachez que j'ai justement interviewé Zakia Katabi, notre ministre fédéral de l'Environnement, du Climat, du Développement Durable et du Green Deal. N'hésitez pas à aller consulter les épisodes précédents de 70 minutes avec. Il y en aura certainement un paquet qui vous intéresseront. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à aller vous abonner à 70 minutes avec sur votre plateforme de podcast préférée. C'est gratuit et ça vous permet de ne pas manquer les prochains épisodes. Et vous pouvez aussi suivre 70 minutes avec sur Twitter et Facebook. Dans 2 semaines, je recevrai Lucie Ronfaux, journaliste française spécialisée dans la tech et la culture web, anciennement journaliste au Figaro Tech, pour parler de son roman Les règles du jeu, qui parle de la place donnée aux femmes dans la Startup Nation, ainsi que de menstruation. Je vous dis à très bientôt, salut !